Voyez, on est rendu à la leçon 9, OK? On a déjà avancé beaucoup, hein? L'origine de la famille, on a touché le rôle des époux, l'ambiance familiale, c'est-à-dire la communication. On a aussi touché l'éducation aux enfants, l'instruction chrétienne des enfants, la correction des enfants, on a aussi vu ça. Et le service dans l'Église, avec mon frère Célestin, je crois, service dans l'Église. Puis on a vu la gestion des finances. Et le dimanche passé, avec notre frère Benjamin, j'ai beaucoup aimé son cours, très bien. C'était vraiment édifiant. Et comme je vous ai dit, les cours sont déjà enregistrés sur le site web, et toutes les diapositives et même l'audio, quand c'est le cas, c'est disponible. Ok. Aujourd'hui, on va voir le sujet de la sexualité. Des fois, comme j'ai dit tantôt, c'est un sujet qu'on ne veut pas y toucher. Et des fois, c'est un peu tabou, peut-être. Mais c'est dans la création de Dieu. C'est vrai que le mot sexualité n'est pas dans la Bible, mais référence, la Bible. C'est vrai? Êtes-vous d'accord avec ça? Pourquoi? Bien, on va le voir tantôt, mais il faut en parler, surtout de nos jours. Ça a changé beaucoup. Les mœurs ont changé depuis quelques, mettons, une trentaine d'années. Ça a changé, là. Non? Plus que ça? OK, mais on va se rappeler un peu de la dernière fois. On a vu la leçon de 108, gestion des finances. Donc, Dieu est le propriétaire de tout. Et tout ce que nous avons vient de lui. Ça, c'est en Corinthiens 10, 26. Là, les références bibliques sont là. C'est juste un survol de ce qu'on a vu la semaine passée. Tout lui appartient, comme dit on lit dans les chroniques. Tout vient de lui. Et de ce qu'il nous donne, nous donnons aussi. Donc, l'amour de l'argent, il dit, c'est dangereux. La Bible nous fait beaucoup des avertissements par rapport à ça. Et cet amour-là, l'argent, il nous éloigne de Dieu. Il nous conduit au péché. On a vu avec, comme j'ai mentionné avec Ben la semaine passée, puis on a survolé plusieurs passages de la Bible qui nous exhortent dans ce sens-là. Et aussi, nous devons vivre, on a vu, dans le contentement, ça c'est contentement, et ne pas mettre nos confiances dans les richesses. Il faut se contenter de ce que nous avons. Des fois, il y a des frères qui ont peut-être plus d'argent que nous, ou ils vivent mieux que nous. Dieu permet cela. Okay? Puis il faut vivre dans le contentement et ne pas vivre notre frère et dire pourquoi lui a une Kia et moi j'ai juste une Dodge Caravan. Donc, vous voyez? Donc, il faut juste se contenter de ce que Dieu nous donne. À chacun de nous, Dieu nous donne selon ce que nous pouvons faire. Mais il nous donne. Puis est-ce qu'on manque de quelque chose? Je peux dire qu'on manque de rien. Dieu. On a même plus ce que nous avons besoin, c'est la bénédiction de Dieu. Et nous devons être dans le contentement. L'argent doit être utilisé pour honorer Dieu et rechercher les trésors éternels, surtout, dans Matthieu 6, 20. Donc, c'est rapidement sur vol. Je crois que vous avez retenu quelques principes encore la semaine passée. Mais aujourd'hui, comme je dis, on va voir en ce qui concerne la sexualité. Et je vais commencer par un passage de la Bible. Vous lisez bien? Oui. Hein? Qu'est-ce qu'il dit, Genèse 1:31? Dieu vit alors que tout ce qu'il a fait, elle avait fait quoi? C'était très bon. Il y a eu un soir, puis un jour, et un matin, et il fut le sixième jour. Donc, c'est-à-dire, avant, c'est le septième jour, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu se reposait de sa création. Mais qu'est-ce qu'il dit Dieu? Que tout ce qu'il avait fait était très bon même. Parce que si vous lisez le chapitre 1, à chaque fois qu'il, au moins sept fois, okay, cette expression revient. Puis la dernière fois, c'est après avoir créé l'homme et la femme. Okay? Et à chaque fois qu'il parle de la création dans Genèse 1, là, il dit, Dieu voyait que c'était très bon. Ça commence par la lumière était bonne, était très bonne. Puis après, ça commence par tout ce qu'il avait créé, les animaux, les arbres, tout ça. Puis il dit que c'était bon. Mais dans le dernier verset 31, il dit que tout était très bon. Et cela inclut quoi? La sexualité, du comment Dieu nous a créés, hommes et femmes. Donc, comme j'ai dit tantôt, le mot sexualité est un terme large, okay, qui regroupe plusieurs réalités. Okay, la Bible ne parle pas de la sexualité comme un sujet isolé, okay, mais à travers des différents thèmes. La création de l'homme et de la femme. Et dans quel autre thème on peut voir ce qui concerne la sexualité? Le mariage, l'union conjugale, c'est-à-dire le mariage, ça découle du mariage. La pureté et les avertissements aussi contre l'immoralité. On pourrait peut-être trouver d'autres sujets dans la Bible en ce qui concerne la sexualité. Et je me suis cassé la tête cette semaine voir comment présenter. C'est difficile, c'est tout un, mes frères et sœurs, c'est tout un défi de voir comment donc présenter chaque thème là. C'est vrai que quand on enseigne un livre, bon, on se fie au texte du livre, puis on décortique les versets, puis on étudie chaque verset. C'est bon, creuser les Écritures. Mais quand il s'agit des thèmes, c'est un peu, c'est un travail ardu. Mais j'ai prié beaucoup pour cela, et donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, comment comprendre la sexualité selon Dieu. Et pour cela, nous devons écouter l'ensemble de l'enseignement biblique. Je crois que pour tout thème, là, quand vous touchez, là, c'est vraiment de toucher l'ensemble de l'enseignement biblique. Donc, le mot sexualité dans la Bible touche au moins 5 domaines. OK? Comme je dis tantôt, l'identité, homme et femme. Et là, déjà, je touche un sujet un peu d'actualité, l'identité. OK? Homme et femme. Le mariage. L'union conjugale. OK? Et la pureté et la sanctification aussi, en ce qui concerne la sexualité, et les avertissements contre l'immoralité. C'est un peu, le mot sexualité dans la Bible touche au moins ces sujets. Et la façon que, aujourd'hui, je vais vous le présenter, c'est dans comment c'est ce thème-là, ou ce sujet, s'inscrit dans l'histoire de la révélation, c'est-à-dire dans toute la Bible. Comment ça s'inscrit, ce thème, dans toute la Bible? OK? Comme plusieurs d'autres thèmes, on peut le voir, comment ça évolue dans chaque étape de la révélation divine, c'est-à-dire sa parole. Et à la fin, je vais conclure avec quelques énoncés, quelques recommandations pour nous tous, pas juste pour vous, pour nous tous, en ce qui concerne ce sujet-là. C'est bon? Donc, je dis tantôt que la sexualité s'inscrit dans l'histoire de la révélation, c'est-à-dire on peut diviser l'histoire de la révélation, ce n'est pas quelque chose qui est écrit dans la Bible, on peut le voir clairement, c'est ça? La création, qu'est-ce qui est arrivé après? La chute, c'est-à-dire le péché. La rédemption après, c'est par Jésus, ok? Puis la consommation, c'est-à-dire l'état futur, le futur, les choses qui s'en viennent, la fin de toutes choses, la consommation. Donc, on peut peut-être diviser l'histoire biblique dans ces quatre thèmes, non, quatre étapes, là. OK. Donc, la sexualité s'inscrit dans l'histoire de la vie. Regardons rapidement la création. On va développer encore, là, mais la création, l'homme et la femme sont créés différents et complémentaires. La sexualité sert l'union et la fécondité. C'est pas juste la fécondité. Oui, c'est vrai que on va le voir tantôt, quelques versets qui parlent de ça, mais pas juste ça. Il sert aussi pour l'union, ok? L'union entre l'homme et la femme. Et sont créés. Est-ce que c'est vrai? Ils sont différents les hommes et les femmes? Très différents. Mais ils sont complémentaires. Je vais lui faire une aide, une quoi? Un vis-à-vis. OK? Donc, ça, c'est au niveau de la création. Et la création, Dieu avait créé l'homme et la femme parfaitement. Il avait créé. Mais, qu'est-ce qui est arrivé après, comme on dit? La chute, le péché. Donc, le péché introduit la domination. OK? On le voit dans Genèse 3.16. C'est drôle, hein? Genèse 3.16 nous dit les conséquences du péché. Ça commence en Genèse 3.16. Et Jean 3.16 nous donne la solution à ce, ce péché, comment Dieu a résolu le problème du péché. Donc, mais c'est ça, introduit l'annihilation, la convoitise et d'autres dérivés en ce qui concerne la sexualité. Après, la rédemption, le salut en Jésus-Christ transforme le chrétien. Okay? La sexualité doit être vécue dans la sainteté. On a plusieurs, on va voir quelques versets, on ne verra pas tous les versets que surtout l'apôtre Paul nous exhorte, même Pierre aussi, à faire en ce qui concerne les conséquences qu'il y a eu à cause du péché. Donc la sexualité doit être vécue dans la sainteté et l'alliance du mariage. C'est ça l'encadrement selon la Bible. Donc Éphésiens 4, 23 à 24 dit « Être renouvelé par l'Esprit, dit, dans votre intelligence, à revêtir la nature nouvelle, voyez, créée selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. » Est-ce qu'on a été recréé? Pas physiquement, mais quoi? On a été recréé, si on peut dire, spirituellement. Ce qu'on appelle dans la parole de Dieu la régénération. Et est-ce que c'est moi qui l'ai fait tout seul? Non, c'est par grâce, c'est l'Esprit de Dieu qui régénère notre vie, conforme à Dieu. OK? Mais est-ce qu'on est parfait? Non, malheureusement. Et on traîne des choses du monde, des fois. Okay? Le péché est encore là. Mais il y a quoi? Le pardon. Et Dieu pardonne. Et quoi? Il y a la sanctification, on va en parler aussi, qui nous aide à pouvoir grandir dans notre foi et délaisser le péché. Et cela est compris, les choses qui le péché a, les ravages qu'il a fait en ce qui concerne la sexualité. Consommation, donc la dernière étape, la sexualité terrestre prend fin. Les rachetés auront un nouveau corps, totalement libéré du péché. C'est pas beau ça? Oui, c'est bon. Donc, quand Paul il dit là, il a hâte d'être libéré de ce corps, hein? OK? Puis, il le mentionne. Donc, ça va être à la fin, la consommation de toutes choses. Ça va prendre fin, la sexualité. On va le voir, même Jésus le mentionne aussi. Je ne sais pas comment ça va être, OK? Parce qu'il dit, il n'y aura pas d'homme ni femme, pas de mariage. Donc, on va transformer, probablement semblable à ce que nous avons maintenant, nous sommes maintenant, mais différents. Je ne sais pas c'est quoi, mais c'est sûr, ça va être transformé. On va avoir des corps, on va revêtir la quoi? L'incorruptibilité. OK? Donc, ça, c'est une promesse que Dieu nous a faite. Mais ça va être pour la fin de toutes choses. Donc, il n'y a pour le moment ni homme parfait, ni femme parfaite. Mais dans l'éternité, les croyants rachetés auront un nouveau corps totalement libéré du péché. Donc chacun gardera son identité, mais il n'y aura plus de couple. Tous formeront ensemble. Et ça, j'aime ça, parce que ça a quand même une connotation. Hein? Tous formeront ensemble l'épouse de Christ. C'est quand même, il y a une connotation en ce qui concerne la sexualité ou l'union. OK, on sera qui? L'épouse de Christ. Qui est l'épouse de Christ? C'est nous, c'est l'Église. Donc, on va passer au travers ces étapes-là de l'histoire, puis à la fin, on va conclure par des choses qu'on peut en tirer de l'enseignement biblique. C'est bon? Donc, la sexualité, on est rendu dans la partie de la création, dans le plan de Dieu. Donc, elle fait partie du dessein créateur de Dieu. OK? Ça fait partie dans Genèse 1, 27 à 28. Déjà, le premier chapitre de la Bible, il dit, « Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Dieu, quoi? Les bénit. Et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez. » Multipliez-vous, soyez féconds, multipliez-vous. Peuplez la terre, si on peut dire. Mais ce que j'aime, ce passage-là, il dit, Dieu créa l'homme à son image. Des fois, un peu, si on en arrête là, il dit, oh ben l'homme, Dieu nous a créé à son image, non? Mais est-ce que l'homme a été créé le premier? Ça, c'est vrai, ça. OK, ça, c'est vrai. Même Paul, il le rappelle. Okay, il dit, l'homme, ce que j'aime de la Genèse, il dit, l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, homme et femme. Donc, il répète. Donc là, oui, c'est vrai, l'homme, là, mais il dit, l'homme et la femme, il les créa, et les deux, à l'image de Dieu. Et il le bénit, il leur dit, soyez féconds. C'est-à-dire, ça se représente vraiment l'union, là. OK, le fait de pouvoir se reproduire. Donc, la sexualité, dans le plan de Dieu, on est en train de voir. Elle fait partie de la création. Dieu crée l'homme et la femme. Et la différence sexuelle est voulue par Dieu. On est différents, mais, comme on l'a dit, complémentaires. OK? Et même physiquement, Dieu nous a créés différents. Et ça se révèle dans... Ça se voit dans la sexualité aussi. Donc, différent physiquement. Donc, c'est voulu par Dieu. Maintenant, dites-moi, mais pourquoi Dieu nous a créés comme ça? Pourquoi a créé? Je ne sais pas. Dieu nous a créés comme ça. Et bon, il faut accepter qu'il nous a créés hommes et femmes. Et tous à l'image de Dieu. Et quand on dit créer à l'image de Dieu, c'est vraiment homme et femme. Hein? Et qu'est-ce que ça nous dit, créer à l'image de Dieu? Qu'est-ce que ça peut nous dire? Quelle idée nous avons de l'image de Dieu? Quand il parle d'image de Dieu, il fait référence à quoi? Ben, on est pareil à Dieu? On a des ressemblances à Dieu? Oui, un peu dans les décisions que nous prenons, les sentiments aussi. Dieu a des sentiments. Et quoi d'autre? Quel autre aspect? Bon, mentionner l'amour aussi, le fait d'aimer les émotions. Est-ce que vous voyez dans la parole de Dieu que Dieu, des fois, on voit des émotions? Oui, la colère de Dieu. On voit l'amour de Dieu. Okay? On est créé à l'image de Dieu. Et ce qui est particulier, c'est homme et femme aussi. Là, il y en a qui se posent la question, mais Dieu est homme. Et dans la Bible, c'est marqué masculin. Et c'est vrai. C'est marqué masculin. Mais dans la Bible, on voit les deux faces hein, de Dieu. Et Dieu est le créateur. Puis, qu'est-ce que la parole dit? Que Dieu est comme une mère qui prend soin de ses enfants. Mais c'est aussi comme un père qui corrige aussi ses enfants. Donc, dans sa sagesse, Dieu nous a créés comme ça, complémentaires, hommes et femmes. Donc, la sexualité participe aussi à la bénédiction de Dieu. Il est béni, il dit. Mais la sexualité est dans le cadre, est dans le mariage, donc le cadre de la sexualité. La sexualité trouve son sens dans l'alliance du mariage. Dans Genèse 2:24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Une seule chair. Qu'est-ce qu'on comprend par cela, une seule chair? Ça revient dans le Nouveau Testament. Hein? Oui, on va développer un peu plus tantôt. Une seule chair. Le mariage, il dit, est une alliance, déjà. On voit que dans l'Ancien Testament, on utilise plusieurs fois le mot alliance pour se référer au mariage. Et c'est une union exclusive et une union durable aussi. Est-ce que dans la Bible, est-ce que le mariage... C'est temporaire. La volonté de Dieu, c'est que le mariage ce soit pour toute la vie. Pour Dieu, n'existe pas de la répudiation ou la séparation, le divorce. En tout cas, on voit par l'histoire, c'est à cause de la dureté. Même Jésus dit que Moïse avait accepté ce divorce-là. Et aussi, le cadre de la sexualité, c'est le fondement de la famille, c'est-à-dire que les enfants viennent. Mais Jésus même fait référence. Nous avons vu que le Créateur, il fait référence à ce que nous avons lu dans la Genèse. Et c'est vrai que Moïse l'a écrit, okay, mais Jésus fait référence à ce même verset. Il dit, Ne savez-vous pas que lu, nous n'avons pas lu que le Créateur dans Matthieu 19, 4 à 6, au commencement a fait l'homme et la femme, et il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, répète là, il s'attachera à sa femme, et les deux viendront qu'un, ils feront qu'un, il dit pas dans une seule chair, mais dans Luc, dans Matthieu, pardon, les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme, donc, dit, ne sépare, donc, pas ce que Dieu a uni. Voilà, donc, le mariage dans la Bible, c'est pour toute la vie, pour toute la vie. Dans Genèse, là, c'est un long passage, là, mais Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, il la mena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, c'est les os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme, et là, vous voyez un peu le contexte de ce qu'on dit, c'est pour ça que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. À sa femme, ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et n'avaient pas honte. Qu'est-ce qui est arrivé après le péché, après la chute? C'est ça. Ils se sont découverts, puis là, ils ont eu honte. C'est sûr que le péché amène la honte. La honte d'avoir déçu Dieu, désobéi Dieu. Il y a des conséquences. Qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il leur a fait des habits, oui, c'est ça, des habits. Mais on trouve intéressant que Dieu a créé l'homme et la femme, il a pris, il l'amena vers Dieu, et cette fois, il dit, on dirait un chant de l'expression de Adam, hein, cette fois, c'est les os de mes os, la chair de ma chair. En parlant de qui? De Ève, de sa femme. Donc la sexualité dans la parole de Dieu a plusieurs buts. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ces passages-là? L'union. Okay? L'union entre homme et femme. C'est-à-dire une union physique, émotionnelle, relationnelle aussi, son vis-à-vis, son aide, spirituelle aussi. C'est devant Dieu, c'est Dieu qui les a unis. C'est-à-dire une seule chair. Un, il devient un. La procréation aussi, vous voyez, c'est soyez féconds, multipliez-vous. Okay? Dans ce but-là aussi, la sexualité a été créée par Dieu. Il y a plusieurs buts là. Donc l'union, ce n'est pas juste la procréation. Là. L'union, la procréation et l'amour, c'est-à-dire le plaisir d'être avec ta femme, ton mari. Et c'est les os, comme j'ai mentionné tantôt, c'est les os de mes os, la chair de ma chair. Donc, l'amour conjugal. Donc, la sexualité est l'expression physique de cette union que Dieu a permis. Dieu dit dans Genèse, là encore, là, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, les créa à l'image de Dieu, homme et femme, les créa. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la. Dieu vit alors que tout ce qu'il avait fait, et voici, tout était très bon. Donc on revoit encore ce qu'on avait dit, mais on le voit tout dans son contexte, le mariage, l'union. Donc, dans le mariage, la sexualité est la célébration de cette alliance. Le plaisir n'est pas une fin en soi, ok, mais c'est un cadeau destiné, si on peut dire, à sceller l'union des deux êtres. Je suis marié depuis, ma femme est pas là, 32 ans. 32 ans. Je me rappelle le jour de mon mariage. C'est vrai. On était amoureux et tout, mais j'avais vraiment d'être avec ma femme. OK, puis là, j'avais ce désir, ce plaisir que Dieu avait créé de pouvoir être avec elle de façon même intime. OK, puis ce n'est pas bon, ça, ce n'est pas bon avoir ces sentiments-là. Mais ce n'est pas un fin en soi, mais c'est un cadeau, OK, destiné à sceller l'union des deux êtres. Donc c'est un cadeau de Dieu, en fait, la sexualité. Dieu nous a créés comme ça. Jouir de cette intimité, une seule chair, c'est honorer le dessein de Dieu. Mais il faut se rappeler, selon les normes, comme Dieu nous a créés, la chute est venue à tout changer cela, mais au début, ce n'était pas comme ça. OK? Et Jésus, c'est vrai qu'il parle, au début, ce n'était pas comme ça, c'est-à-dire au niveau du divorce, mais aussi au niveau de l'intimité aussi. OK? Le péché a fait des ravages. OK? En ce qui concerne, on est en train de parler de la sexualité. Mais regardons ce que dit Proverbe 5, 18 à 19. Il dit que ta source, c'est un peu difficile le langage qu'il utilise, hein? Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, c'est très romantique, hein? Gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivrée de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Est-ce que c'est romantique ça? Oui, mais oui. C'est qui l'auteur de ce qu'on vient de lire? C'est Dieu lui-même. Oui, Salomon, c'est vrai. Il a écrit, mais c'est Dieu, à la base, c'est Dieu qui a permis que ta source soit bénie. L'image des sources ou la fontaine, là, c'est une métaphore biblique de la sexualité ou la fertilité. Que ta source soit bénie. Et en disant que ta source soit bénie, il dit, le texte affirme que l'intimité physique est un lieu de bénédiction divine. C'est un cadeau de Dieu. Mais la Bible célèbre aussi l'amour entre les époux. OK, est-ce que vous connaissez un livre où la Bible célèbre celle-là? Cette intimité? Cette relation? Quel? Ecclésiaste? Oui, c'était pas loin, là. C'est vrai. Oui, les cantiques des cantiques. Qui a lu le cantique des cantiques? Ouais? Ça fait longtemps? Ça aurait pu être un bon exercice. Hein? La semaine passée, j'aurais pu vous dire, lisez le cantique des cantiques. Mais des fois, on est mal à l'aise de lire des... OK, souvent, ce livre-là a été controversé, même pour former le canon biblique. Là. On dirait que ça a été rajouté au canon biblique quelques juste centaines d'années avant la venue du Seigneur. Là. OK? Les Juifs, ils pensaient qu'ils parlaient de l'amour entre Dieu et Israël. OK? Même les chrétiens, des fois, ils veulent dire que ce livre-là, le milieu évangélique, parle plutôt de l'amour de Dieu avec son Église ou à Christ. Mais quand vous lisez ça, est-ce que vous voyez vraiment ça? Est-ce qu'on peut l'appliquer? Oui, on peut l'appliquer en quelque sorte, faire un parallèle. D'ailleurs, on va voir que le mariage ou la sexualité aussi, c'est comme une image de ce qui va, l'union qu'on va voir avec l'époux, l'agneau et nous, l'Église. Mais c'est difficile de voir, en tout cas, personnellement, je ne crois pas que ce soit le but. Le but de Dieu de nous laisser ce livre, OK, c'est vraiment de célébrer cela, sa création. Et on parle maintenant de la sexualité. Donc, cantique des cantiques. Je ne vais pas tout lire les versets, il y en a plusieurs, là, mais il dit, tu me fais... Qui pourrait les lire, là? Un romantique qui pourrait lire ça, là? Oh, une romantique? Allez, s'il vous plaît. On est gêné? Bon, je vois que... OK. Ben, lisons ensemble. Tu me fais perdre le sens. Waouh! Oh, toi, ma sœur, ma fiancée, tu me fais perdre le sens par un seul de tes regards, waouh, par un seul de tes joyeuses suspendues et tes colliers. Ton amour est délicieux, oh toi, ma sœur. J'aime l'expression qu'il utilise aussi, hein, ma sœur, ma fiancée. Oui, ton amour exalte plus que le vin et la senteur de tes parfums exalte plus que tous les
Tous les bombes.
Wow. C'est-tu romantique, ça? Si vous dites non, ben, là, il y a un problème. Là. Ton amour est délicieux à toi, ma soeur, ma fiancée. Oui, ton amour exalte plus que le vin. Qui aime le vin ici? Ben, j'aime le vin. Et on pourrait dire, là, vous pouvez l'adapter à quelque chose que vous aimez beaucoup. Mais la Bible utilise ce langage-là un peu pour célébrer cet amour. Mais il y en a plusieurs. Hein, dans le livre des Cantiques, tu es toute belle, ma compagne, il dit, en toi, point de défaut. C'est Cantique 4-7. Un jardin clos, une source scellée. Ça, c'est une métaphore de l'exclusivité, de la virginité précieuse réservée à l'époux, là, dans Cantique 4-12. Un jardin clos, une source scellée. Waouh! Ma colombe, ma parfaite, la plus resplendissante. Hey, et qui parle ça? C'est le mari, là. Et ce que j'aime, là, dans les cantiques, il y a une partie qui c'est le mari qui parle, mais c'est aussi elle qui parle plusieurs fois. Oui? Donc, il y a des expressions d'appartenance mutuelle de cette union parfaite. Elle dit, celui qui mon cœur aime, l'expression la plus profonde de l'attachement émotionnel et spirituel. Dans Cantique 3.1, celui que mon cœur aime, mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Cantique 2.16, je suis à mon bien-aimé et son désir se porte vers moi. Puis je pourrais continuer avec d'autres versets, mais on va arrêter là. Okay? Il y en a d'autres versets que vous allez être même surpris. Il parle des choses physiques de la femme même. Ok, je vous laisse ça, découvrir ça. Mais ça vient de Dieu. Hein? Faut pas, comme je dis tantôt, le péché a déformé celle-là. Mais la parole de Dieu est parfaite. Et ce qui est écrit dans le Cantique des Cantiques est parfait. Ok, et ça nous exhorte, ça nous enseigne que ça devrait être comme ça. Les sentiments que nous avons, que nous éprouvons, que ce soit pour ma femme, mon mari. C'est beau? Donc, le cantique célèbre l'amour humain dans sa forme la plus profonde. L'amour chanté dans ce livre concerne l'amour conjugal, la sexualité humaine, la sexualité avec ses désirs et ses plaisirs même aussi, appartient à la bonne création de Dieu, et donc pure, sainte et saine. OK? Puis, cet amour unit un homme et une femme différents. Mais complémentaires, appelés à vivre en communion profonde. Et je rajouterai en profond devant Dieu. J'aime beaucoup les expressions que des fois Paul utilise selon le Seigneur. OK? Là, on est rendu encore dans le temps de la création. Mais malheureusement, la chute arrive. OK? La corruption de la sexualité dans l'histoire biblique. Donc après la chute, dans Genèse 3, la nature humaine a été corrompue et y compris la sexualité. OK? Il a été corrompu complètement la nature humaine, là, mais compris là en ce qui concerne la sexualité. Donc les désirs humains sont désormais affectés par le péché. Ils peuvent donc devenir désordonnés et impurs. Puis on a beaucoup d'avertissements. Qui avertit beaucoup en ce qui concerne l'impureté, qui avertit dans la Bible? Paul. C'est vrai, Paul avertit beaucoup, mais si vous lisez plus tôt même le Lévitique, vous allez voir qu'il y a des choses que Paul même, on dirait qu'il aussi, il pense un peu à cela. Donc les désirs humains sont désormais affectés par le péché. Mais c'est vrai, Paul y écrit dans Romains 1, 26 à 27, et c'est éclaire ce passage-là. Il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés. Qui ça? Ils se sont livrés, ceux qui sont tombés, les pécheurs, là, à des passions, il dit, déshonorantes. Car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles. Pas besoin d'expliquer ça, là. Par des actes contre nature. Qu'est-ce qu'il dit, l'Ancien Testament? C'est une confusion, il dit. Hein? C'est une abomination. Et de même, les hommes abandonnant ses relations naturelles avec la femme se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, et ils commettent l'infamie, homme avec homme. Puis le verset continue, le passage continue. Donc, la chute, on est rendu de la chute à vraiment, il y a eu une corruption en ce qui concerne la sexualité. Donc, ce désir qui ne respecte pas la volonté du Créateur et que la Bible appelle corrompu, contre nature, mauvais. Dans le domaine sexuel, on parle de quoi? On peut parler plusieurs choses qui reviennent. Hein? Paul, il fait référence à la fornication. Ça parle plutôt de relations avant le mariage, en dehors du mariage, pardon. Prostitution, adultère, l'homosexualité, transgenre, qu'on voit beaucoup maintenant, de nos jours. D'autres péchés sont liés à la sexualité et Paul en parle. L'inconduite sexuelle, et le mot là, c'est ce qui est touchant, c'est que le mot là, c'est porneia. Porneia, ça donne le mot pornographie, ok, dans français là. Et l'inconduite sexuelle, c'est livré à l'inconduite sexuelle. Prostituée, il utilise ce mot, Paul, l'homme qui se livre à l'inconduite, adultère, péché adultère, commettre l'adultère, dans Romains, dépravé, dans 1 Corinthiens 6, 9, dans Timothée, on dit aussi, dépravé, efféminé. Donc, vous connaissez ce verset-là, et donc il y a eu une dépravation. Et Dieu a interdit certaines pratiques à son peuple dans la loi. Nous lisons rapidement peut-être deux exemples. Tu ne te coucheras pas avec un homme comme on couche avec. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une horrible pratique. Vous voyez, ça vient déjà depuis ce temps-là. Une femme ne portera pas un habillement d'homme. Et un homme ne mettra pas d'événements de femme. En effet, quiconque fait cela est en horreur à l'Éternel, même dans la façon. Hein? Ok. Donc, on le voit même dans notre société. Et puis, Lévitique, il donne beaucoup d'autres avertissements. Tu n'auras pas de rapport sexuel avec une bête. Wow, c'est arrivé jusqu'à là. Oui, c'est vrai. Quand le peuple est rentré du désert à la terre promise, qu'est-ce qui est arrivé? Oui, ils ont été 40 ans. Mais il y a une chose que Dieu dit, que le temps pour qu'ils rentrent, c'est quand le péché est rendu à leur comble. Et puis là, Dieu a permis que tous ces peuples soient, il voulait que tous ces peuples soient détruits. À cause de quoi? À cause des pratiques qui sont à l'encontre de la volonté de Dieu. Et beaucoup de ces pratiques sont de l'ordre de la sexualité. Et puis, vous voyez, on le voit par les avertissements de la loi. Ces pratiques que ce peuple avait, Dieu les interdit pour son peuple. On voit beaucoup des référents, l'adultère, l'inceste dans Lévitique, relation avec la femme, une proche, Lévitique aussi, relation pendant les règles, l'homosexualité, la bestialité. Ouais. Si vous lisez le Lévitique, est vraiment très clair là, dans ce qu'on la prostitution, le viol, séduction, l'infidélité. Donc, si vous voyez le Lévitique, tout cela sont. Dieu encadre cela quand le peuple va entrer dans la terre promise. Donc, dans la rédemption, Dieu agit par Jésus. Ça, c'est la chute, là, les conséquences du péché. Mais dans la rédemption, Dieu agit par Jésus-Christ pour, une chose, pardonner les péchés et purifier les croyants et transformer leur manière de vivre, si on parle de vivre la sexualité. Regardons ce qu'il dit Corinthe, là. En Corinthiens, 6, 9 à 11. Vous le voyez à l'écran, là, donc, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là que vous étiez, quelques-uns, pas tous là, entre vous, mais j'aime le « mais ». Mais vous avez été lavé. Mais vous avez été sanctifié. Il parle à qui ça? Aux chrétiens, il nous parle ça. Sanctifié, vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc l'immoralité sexuelle fait partie des péchés, qui est loin de Dieu. Mais l'Évangile offre le pardon et la purification. Les croyantes donc sont lavées, comme on dit ce verset, sont sanctifiées et justifiées en Christ. Disons encore autre passage. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple. Là, vous connaissez ce verset. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Et vous n'êtes pas à vous-même, n'est pas à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. À qui appartient notre corps? Oui, c'est vrai, c'est notre corps, on parle de notre corps, mais il appartient à qui? Il appartient à Dieu. C'est pour ça que Paul, il fait cette référence, ok, en ce qui concerne la situation que les gens vivaient, l'influence que les gens, les morts qu'il y avait à l'époque en tout cas. Il dit, car votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc le corps appartient maintenant au Seigneur, les croyants est le temple du Saint-Esprit, et la sexualité doit être vécue pour la gloire de Dieu. Donc ce que nous faisons de notre corps révèle qui nous adorons, d'après l'apôtre Paul. Oui, et dans votre esprit, qui appartient à Dieu. Mais les deux. Hein. Mais en tout cas, c'est le Saint-Esprit qui fait la différence entre la loi, l'ancienne alliance, et maintenant la nouvelle alliance. On est en train de parler de la rédemption. OK? Nous, maintenant, nous pouvons... Dieu a mis l'esprit en nous pour que nous puissions vivre selon ce qu'il a. Il avait au début, il avait... comment je peux dire, en ce qui concerne la sexualité, il y avait établi des normes. Et maintenant, avec l'esprit, est-ce qu'on est capable de fuir du péché? Oui, je crois que oui, vous avez été sanctifié, vous avez été mis à part. Ça ne veut pas dire que, des fois, on n'est pas des pensées mauvaises, ça ne veut pas dire ça. Mais il y a ce que je parlais, dans la rédemption, il y a le pardon de nos péchés. On doit demander pardon si jamais on s'éloigne. OK, on doit demander pardon à Dieu, être purifié. Et vous allez être purifié de toute iniquité, dit Jean aussi. Dans 1 Thessaloniciens, nous voyons ici ce que Dieu veut, et ça c'est clair, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'inconduite. Et vous voyez là, quand il dit sanctification, il fait tout de suite référence. Qu'est-ce que vous comprenez par sanctification? Qu'est-ce qu'on comprend, nous, par sanctification? Et ça comprend quoi? Pour les chrétiens. Oui, né de nouveau, oui. Se sanctifier. Oui, c'est ça. Progressif de l'esprit qui travaille en nous. Pour délaisser quoi? Le péché. Oui, mais ce qui fait Paul tout de suite, là, il part dans une connotation un peu en ce qui concerne la sexualité. Il dit, sanctification, que c'est que vous absteniez de l'inconduite. Il dit, c'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée. C'est les désirs, ça. Comme font les païens qui ne connaissent pas. Maintenant, il y a une différence. Hein? OK? Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce qu'on le voit dans nos sociétés? Oui. Et surtout en ce qui concerne la sexualité. Malheureusement, notre société est, on peut dire, dépravée. OK? Il ne suit pas les... Oui, aussi. Ben oui. Ben oui, c'est spirituel. Oui, c'est vrai, ça prend quelque chose de... C'est vrai qu'avec notre corps, on doit... notre corps doit... comment je vais dire là? Doit être gardé pour glorifier et Dieu. OK? C'est vrai, ça.
Et,
non, ce n'est pas juste les apparences. Notre conduite, OK, notre corps. Mais le cœur aussi, c'est-à-dire, c'est spirituel. Si notre cœur est, comment je peux dire là, est connecté à Dieu, c'est sûr que notre corps va suivre. Ça, c'est concernant la rédemption. Donc, la restauration du dessein de Dieu pour le mariage, on va le voir aussi dans Hébreux. Hébreux 13, 4 dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Donc, la rédemption réaffirme le plan de Dieu établi à la création et appelle à une vie transformée. Qu'est-ce que vous comprenez dans ce passage, dans ce verset, pardon? Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Que le mariage soit honoré de tous. Est-ce que de tous les chrétiens ou de tous même à l'extérieur? Ça peut comprendre aussi la société. On est un témoignage. Hein? On a un témoignage. Oui, mais que ce soit honoré de tous. Pourquoi il faut que ce soit honoré? Oui, parce que ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Donc, le mariage doit être honoré, la sexualité doit être préservée dans la fidélité, mon frère a parlé de ça, conjugale. Dieu juge l'immoralité sexuelle, elle doit être vécue dans la crainte de Dieu. Regardons ce que Éphésiens, un long passage, OK? 5, 22 à 27, dit « Femmes, soyez soumises ». Là, je commence par les femmes, là, mais attendez, là, les hommes s'en viennent aussi, OK? « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari. Comme quoi? Comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, OK, qui est son corps, et donc il est le Sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent. Et en tout, chacune à son mari. » Et là, il dit « Marie, aimez chacun votre femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » C'est-à-dire, d'une façon sacrificielle. Ça prend du sacrifice, là, pour elle. Afin, avec un but, là, de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole pour faire paraître devant lui cette Église. Il mélange la notion de mariage et l'Église aussi. De faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien semblable, mais sainte et sans défaut. Donc le mariage, là, ça prend une signification plus profonde dans le Nouveau Testament. Le mariage reflète l'amour de Christ pour l'Église, oui. Donc le mariage reflète l'amour. Et je suis en train de oui, c'est vrai. Ce n'est pas en cours de mariage, là, mais ça prend l'intimité. C'est ce qui reflète, ce qui signifie le mariage. Et c'est compris dans ce qu'on vit comme mari et femme, l'intimité, l'union. Le mariage reflète l'amour de Christ pour l'Église, cette union-là. L'amour conjugal devient un témoignage de l'Évangile. Et la sexualité dans le mariage exprime aussi l'alliance et la fidélité. Dans Éphésiens 5, encore là, à la fin, nous voyons dans le verset 31-32, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera sa femme, Paul le répète encore là, et son père et sa mère, pour s'attacher à sa femme, pardon, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, il dit. Je dis, c'est là en rapport à Christ et l'Église. Ce mystère est grand. Et Jésus dit, il répondit aux questions, là. Est-ce que dans le ciel, il va y avoir des mariages ou des choses comme ça? Jésus leur répond, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection, on est en train de parler de la consommation, de la fin des temps, de la fin de toutes choses, d'entre les morts, ne prendront ni femme ni mari. Ils ne pourront pas non plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. Donc, le mariage se finit dans la fin de temps. Est-ce que là, on se pose des questions, qu'est-ce qu'on va faire? On va reconnaître, oui, c'est sûr. Mais comment on va vivre, je ne sais pas. On va le voir rendu là. Mais il dit c'est fini après, le temps de la consommation. Donc la sexualité et le mariage sont des dons temporaires, ok, qui pointent vers une réalité plus grande, c'est-à-dire l'union éternelle entre Christ et son peuple. Donc la consommation est décrite comme les noces de l'agneau. C'est bon ça, hein? J'aime cette image-là dans l'Apocalypse. Les noces de l'agneau, il dit, j'ai entendu comme la voix d'une foule nombreuse. De qui il parle, là? Des rachetés, là. Comme la voix des grands des eaux et comme la voix des forts tonnerres, disant, Alléluia, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse, qui ça? L'Église est préparée. Il lui a donné de se vêtir dans du fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ça, c'est en ce qui concerne déjà rentrer dans la fin, la consommation. Aussi, la création entend-elle un ardent désir, la révélation du Fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, c'est-à-dire, il va avoir une fin. Cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création même, hein, tout entière, soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, parce que la création, la terre va être renouvelée. Il va y avoir des nouveaux cieux, nouvelle terre. Il dit, bien plus nous, il dit aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons et nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Ça, c'est en qui concerne la consommation de toute chose. Okay? Tout va être rétabli, le péché ne sera plus. Et c'est vrai que maintenant, on vit dans une société dépravée, c'est ça, et marquée par la confusion sur l'identité et la sexualité, la normalisation des pratiques sexuelles hors du mariage. Okay? Quoi d'autre on peut dire de notre société? La redéfinition du mariage et même de la famille. Et on voit d'autres aspects. Une forte sexualisation de la culture. Les médias, Internet, réseaux sociaux. Ça a empiré hein, à cause de ça. Tout ce qui est pornographie aussi, encore. Là, c'est encore plus fort là, à cause de tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Et l'influence précoce de la culture sur les enfants. Et on est rendu que nos enfants sont enseignés à l'école depuis un bas âge en ce qui concerne la sexualité, avec aucune norme, le rejet croissant de l'autorité de la Bible. Mais rappelons-nous ce que l'apôtre dit. L'apôtre dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification et que vous absteniez de l'impudicité. Donc, que devons nous faire, frères et sœurs, en ce qui concerne tout ce que nous vivons maintenant? C'est vrai qu'on se pose la question, comment je vais parler à mon enfant de toutes ces choses-là? Avez-vous déjà été confronté à ça? Ben, pas encore. Ça s'en vient. Mais c'est vrai que chacun de nous, comme parents, là, nous essayons de faire selon le modèle biblique, d'enseigner nos enfants. Chaque parent, chaque couple a sa méthode. OK? Je me rappelle un jour que je parlais avec un frère et je disais, mais écoute, et j'ai ce problème avec mes enfants, ils commençaient l'adolescence. Donc les cheveux blancs commençaient déjà à sortir pour nous, les parents. Et donc, pauvres les adolescents, hein. Il n'y a pas d'adolescents ici, c'est bon. Okay? Il n'y en a pas. On parle toujours des ados, là. Mais, donc on a besoin de beaucoup de sagesse à cette époque-là, mais je disais, comment... Le frère, il m'a dit quelque chose de sage. Là, il m'a dit, écoute, Ronald, je vais te dire, je ne veux pas te dire quoi faire, ok, mais je vais te partager ce que je fais. Bon, c'est bon, j'ai pris. Puis, parce que chacun de nous se prend différemment hein, pour enseigner notre enfant, pour montrer les choses, les différences avec le monde et ceux qui sont entourés. Mettons, les enfants arrivent. Et j'ai pas vécu ça. Hein. J'ai commencé, mais arrive avec Papa, ils m'ont montré ça au niveau de la sexualité à l'école. Waouh. Demandons sagesse à Dieu, mais avant tout, commençons depuis qu'ils sont petits. Je ne sais pas de quelle façon, mais essayer d'inculquer, comme dit Deutéronome, tout ce que la Bible parle en ce qui concerne la sexualité, le mariage. Nous avons besoin de beaucoup de sagesse. Nous devons, comme parents, enseigner la vérité biblique, okay, à nos enfants. Deutéronome, okay, 6. Transmettre les principes bibliques sur la sexualité. Répondre à des questions avec vérité et sagesse. On ne va pas lui parler de la cigogne là, qui a les vérités sagesse de la façon comme Dieu vous guide. Il y a beaucoup, hein? Quand j'ai regardé sexualité, j'ai regardé sur des livres concernant ça. On a une bibliothèque aussi. Il y a toute une panoplie des livres. Mais, il faut choisir quand même les bons livres, OK? Et, en ce qui concerne les parents, la sexualité. Mais il y a beaucoup de ressources. Former leur conscience selon la parole de Dieu. Une chose importante, mes frères et sœurs, être des modèles dans le mariage. Nous devons cultiver un amour fidèle, être mari, entre mari et femme. Les enfants voient ça, oui. Ils sont petits, ils regardent ça, ils voient ça, ils se rendent compte. Mais quand ils sont plus grands, ils se rendent plus compte des choses. Et un peu plus grands, ils savent déjà comment je peux dire ça, là? Non, ils connaissent déjà, des fois, nos faiblesses. Déjà, moi, j'ai trois enfants à la maison. Ce pas trois enfants, c'est trois adultes. 27 jusqu'à 20 ans, 27 à 20 ans. Et là, je me suis déjà fait dire pour mon fils ou ma fille, là, toi, tu fais ces choses-là, puis, il me connaît, il nous connaît. Là. Donc, c'est important d'être des modèles pour nos enfants. Nous devons vivre le respect et l'engagement dans l'alliance du mariage. Prions pour que nos enfants puissent voir des couples forts dans le Seigneur. Pas parfaits, mais forts, engagés à Dieu, dans le sens de vouloir faire ce que Dieu demande. Nous devons montrer que le mariage reflète l'amour de Christ pour l'Église. Nos enfants apprennent aussi par ce qu'ils voient dans notre mariage. Une autre chose, prendre l'initiative dans l'éducation. Nous devons parler des sexualités avant que l'école le fasse, que la culture le fasse. Encore là, demander sagesse à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit Jacques, là? Celui qui a besoin de sagesse, qui la demande? Il la demande. Et Dieu, c'est vrai, Dieu nous donne vraiment sagesse pour pouvoir le faire. Prions pour que Dieu nous donne sagesse pour le faire. Nous devons créer un climat où nos enfants peuvent poser des questions. Ne dites pas, non, je ne peux pas, quand tu auras 20 ans, je vais t'en parler, là, OK? Maintenant, je n'ai pas le temps. Non, il faut essayer, demander sagesse encore, là, de voir comment transmettre, comment inculquer les principes bibliques. Nous devons leur montrer la beauté du plan de Dieu. Nous devons enseigner que la sexualité est un don à vivre surtout dans la sainteté. C'est créé par Dieu. Ça inclut la création. Dieu nous a créés comme ça. Donc, je sais que c'est un thème difficile à toucher, OK, mais c'est clair dans la Bible. Dieu nous a créés comme ça. Et des fois, les mariages sont détruits à cause de cela aussi. Okay? Nos enfants sont enseignés, okay? Puis seulement, pas à l'école, pas seulement à l'école, par tous ceux qui voient, okay? Ils entendent. Avec les réseaux sociaux, wow, dire à quel âge je vais permettre à mon enfant d'avoir accès aux réseaux sociaux. Pour nous, ça a été dur, ça a commencé là. Maintenant, c'est ouvert à tous, là. Mais c'est difficile. Hein. En tout cas, demandons sagesse à Dieu. Je vous laisse avec ce passage-là. Soyez donc les imitateurs de Dieu, dit Paul, dans Éphésiens 5, 1 à 3, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés, s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Il dit que l'inconduite voyez là, il revient sur ces principes, que l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous, il dit. Et quand on regarde des films, on écoute la musique, latino, quand on écoute les paroles, des fois, c'est horrible, des fois, ce qu'on entend. OK? Il y a des gens que je vois, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, « Ah, tu connais, c'est très beau, là, un chant latino, là. » Je dis, « Oui, je connais, mais les paroles que vous entendez, c'est... » Et puis là, il dit, « C'est vrai? » Parce qu'il... Vous savez, quand j'étais jeune, là, je suis plus jeune, là, maintenant, mais quand j'étais jeune, là, j'écoutais beaucoup la musique en anglais, au Pérou, mais je connais... C'est pas l'anglais, mais j'ai juste écouté. Et des fois, quand je me suis rendu compte, il y a des chansons les paroles étaient n'importe quoi. Et donc, pour faire attention à ça, il dit que l'inconduite, toute forme d'impureté, ou la capacité, la cupidité, ne soit pas même dit, mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Donc, demandons sagesse à Dieu, qu'il puisse nous aider à pouvoir limiter le plus des dégâts que notre société peut faire dans la vie de nos enfants, puis efforçons-nous pour vraiment plaire à Dieu dans l'enseignement, surtout en ce qui concerne maintenant la sexualité dans notre société. Amen. Donc, on va prier et on va finir de cette façon. Seigneur, merci pour ta parole qui nous enseigne, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous as laissé, Seigneur. Et merci parce que c'est de là qui vient la sagesse, Seigneur. Et surtout par ton esprit qui agit en nous, Seigneur. Vraiment, aide-nous dans cet aspect-là de notre vie. Pas seulement pour nos enfants. Je sais qu'ici, il y a des frères et sœurs qui sont célibataires, là. Mais Seigneur, aide-leur dans leur pureté. Seigneur, dans leur influence du monde, en ce qui concerne surtout la sexualité, Seigneur. Protège-les, Seigneur, que ta parole puisse leur parler. Nous aussi, Seigneur, mais nous vivons différentes choses, Seigneur. Il y en a qui sont mariés ici, il y en a qui ne sont pas mariés, qui ont des enfants, qui n'ont pas des enfants. Seigneur, nous te prions que par ton esprit, tu puisses nous aider à pouvoir te glorifier, que nos vies puissent te glorifier, Seigneur. Et nous prions au nom de ton Fils Jésus, Seigneur. Amen.